Cap Nature.
Cap Nature Sandrine, bonjour.
Oui, bonjour madame. Je vous appelle, je voudrais juste savoir si vous avez été dévalisée ou s'il y a encore des choses en rayon.
Alors, on a été dévalisée.
Je sais que certains d'entre nous ont des doutes sur ce que nous allons faire. Nous ne serions pas des hommes si nous n'en avions pas. Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau. Je suis convaincu que chacun d'entre vous fera son devoir.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne en attendant que le monde change. Moi, c'est Philippe et je co-anime en alternance cette émission avec Jean-Pierre. Malgré le confinement, Radio Campus Tour reste actif en vous proposant des programmes faits maison pour vous aider à passer un confinement plus agréable et en essayant de vous divertir autant que possible. Alors, au programme aujourd'hui, des chroniques préparées à domicile par les animateurs de Radio Campus Tour, nous aurons les informations, du cinéma et on retrouvera l'équipe de On se porte pas plus mal. On va commencer par Sophie et les étudiants de l'école de journalisme de Tours qui vont vous informer car oui, malgré la pandémie, le monde continue à avancer et nous, on se retrouve juste après. Restez confinés, on s'occupe de tout sur Radio Campus Tours.
Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus.
Coronavirus.
Covid-19.
Du virus.
Le Covid-19 qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes.
Comment la pandémie a pu toucher plus de 200 000 personnes
pour survivre plusieurs heures en dehors du corps humain.
Retarder la propagation du virus.
Toujours pour éviter la propagation du virus.
De l'épidémie.
Cette épidémie est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle.
Bonjour à tous, auditeurs confinés de France. Nous sommes le dimanche 12 avril. Bienvenue dans l'émission « À part le corona, il se passe quoi ?» Le flash info fait maison qui parle de tout, sauf du fameux virus à couronne. Vous n'en pouvez plus, il est partout dans les journaux ou à la télévision. Le Covid-19 s'est propagé dans le monde, mais aussi dans nos esprits et dans nos médias. Pourtant, une actualité sans corona existe encore, et il est parfois difficile de la trouver. Cette émission bricolée est réalisée par Sophie, Lucas, Solène, Manon et Caroline, journalistes confinés et étudiants à l'EPJT, l'école publique de journalisme de Tours. C'est parti pour un petit tour d'actualité non infectée.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir.
Les grands titres du journal.
On commence avec l'actualité en France.
Christian Quesada écope de 3 ans de prison pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais Christian Quesada est un champion des 12 coups de midi. Il avait en 2016 et 2017 participé à près de 200 émissions du jeu de TF1. Sur ses ordinateurs, des centaines de vidéos et d'images de mineurs et d'enfants subissant des viols et agressions sexuelles avaient été retrouvées. Le désormais coupable, jugé par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, a également été condamné à une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et à 5 ans de suivi socio-judiciaire avec 3 ans d'emprisonnement si non-respect de cette clause. Le 15 avril 2019, une partie importante de la cathédrale Notre-Dame de Paris partait en fumée. Moins d'un an plus tard, à l'occasion du Vendredi Saint, un temps de méditation a été observé dans le bâtiment en rénovation, et non pas une messe car le Vendredi Saint marque la mort de Jésus et le deuil de l'Église. Lors de ce moment solennel, Michel Petit, archevêque de Paris, a également vénéré la Sainte Couronne d'Épines sauvée des flammes. La veille de Pâques, la Fondation du patrimoine a également annoncé que plus de 90% des promesses de dons pour la cathédrale de Notre-Dame de Paris étaient à leur engagement ferme et définitif. En presque un an, l'organisme a récolté plus de 227 millions d'euros. 87 millions d'euros ont déjà été encaissés.
Pirate !
Vous ne direz plus « pirate » de la même façon. Marie-Louise Lopéré, une des stars de la pub de couscous de la marque Tipiak, est décédée à 97 ans dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 avril. Elle faisait partie des dernières bigoudaines qui portaient encore la coiffe comme habit. Cette haute coiffe portée dans le pays bigoudin au sud-ouest du Finistère perd l'une de ses représentantes. Alexia Caoudal, 94 ans et qui apparaît également dans les pubs, témoigne pour le Télégramme. « On a fait de belles sorties ensemble, on s'est toujours bien arrangé. Je n'ai que de bons souvenirs avec elle. Au revoir Marie-Louise Lopéré.
Et maintenant, allons faire un tour du côté de l'international.
Harvey Weinstein a été inculpé une troisième fois aux États-Unis. L'ex-producteur, actuellement emprisonné dans l'État de New York pour agression sexuelle et viol, va être transféré en Californie pour un second procès à une date encore inconnue, à la demande de procureurs de Los Angeles. Une troisième femme l'accuse de l'avoir agressé sexuellement en 2010 à Beverly Hills, une inculpation qui se rajoute à deux autres annoncées fin janvier. Harvey Weinstein est à ce jour accusé d'agression sexuelle par plus de 90 femmes, mais la plupart des faits sont prescrits. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola continue. La RDC pensait en avoir fini avec cet autre fléau sanitaire. Cela faisait plus d'un mois qu'aucun nouveau cas n'avait été déclaré. Et le pays comptait annoncer officiellement la fin de l'épidémie lundi 13 avril. Mais vendredi 10 avril, un homme de 26 ans est décédé du virus dans le territoire de Beni. Les épidémiologistes redoutent de nouvelles contaminations et des vaccinations ont commencé dès samedi. Cette énième épidémie d'Ebola en RDC, qui a commencé en août 2018, a fait à ce jour 2268 morts. Bernie Sanders renonce à la présidentielle américaine. Le sénateur du Vermont a annoncé son retrait mercredi 8 avril, alors qu'il était distancié par son rival Joe Biden dans la course à l'investiture démocrate. Déjà candidat malheureux face à Hillary Clinton en 2016, Sanders reste vu comme ayant réussi à tirer sur sa gauche le Parti démocrate, notamment autour du salaire minimum ou de la couverture santé. Après son retrait, Sanders a rappelé l'importance de vaincre Donald Trump dans les urnes en se ralliant à Joe Biden, que le sénateur a qualifié de très respectable, face au président le plus dangereux de l'histoire américaine moderne.
Jeudi 9 avril, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, a pour la première fois désigné le régime de Bachar el-Assad responsable d'attaques chimiques sur son propre sol, la Syrie. Les faits se sont produits le 24 mars 2017 à Latamné, vers 5h45 du matin. Ce jour-là, des avions ont bombardé la ville avec du sarin, un agent chimique interdit par les conventions internationales. Environ 33 heures après cette attaque, des barils d'explosifs contenant du chlore ont cette fois été largués par hélicoptère. Enfin, le 30 mars, une nouvelle attaque au sarin avait lieu. Ces trois faits occasionneront la mort de trois personnes et feront plus de 108 blessés, d'après l'OIAC. À l'époque, le mandat de cette organisation se limitait à déterminer si des agents chimiques avaient été employés. Aujourd'hui, les auteurs ont été identifiés. Le président syrien Bachar el-Assad a bombardé sa population avec des armes chimiques. Il incombe maintenant à l'ONU et à la communauté internationale de prendre les mesures nécessaires selon le président de l'organisation.
On finit enfin par loisirs et culture.
La Cinémathèque française lance sa plateforme de VOD. Depuis jeudi 9 avril, la plateforme Henri propose tous les soirs dès 20h30 un film rare. Le nom de la plateforme renvoie à Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque française. Les films de patrimoine sont restaurés par l'institution, qui y voit, je cite, « une manière de rappeler que si les grands films de l'histoire du cinéma peuvent se regarder aujourd'hui sur ordinateur et en VOD, c'est parce que Langlois et quelques autres ont commencé par les sauver de la décharge avant de les programmer. »
Pas de repos pour les volcans. Jeudi 2 avril, le Piton de la Fournaise, situé sur l'île de la Réunion, est entré en éruption pour la deuxième fois de l'année. Les scientifiques ne pouvant pas se rendre sur le terrain, ils suivent à distance l'activité qui se poursuit depuis plus de 10 jours. En Indonésie, c'est le volcan Anak Krakatoa qui s'est réveillé vendredi 10 avril. Situé entre les îles de Java et Sumatra, il a projeté des panaches de fumée à 500 mètres dans les airs. Ces deux éruptions n'ont fait aucune victime.
Détendez-vous, c'est assez pour aujourd'hui.
C'est l'heure de la
culture.
Non. Parti !
Bienvenue dans La Pause Culture. Chaque dimanche, deux étudiants de l'EPJT choisissent pour vous une découverte culturelle qu'ils aimeraient partager. Documentaires, séries, livres, musique ou expositions virtuelles, ils se démènent pour trouver la perle rare. Aujourd'hui, c'est Manon et Sophie qui vous présentent leur trouvaille.
Ceci est un champ de pavots. Le geste est millénaire. Une fois incisé, la capsule de la plante libère une sève miraculeuse, utilisée en pommade depuis la nuit des temps, l'opium.
Produit mythifié et glorifié, figure de trafiquant fantasmé, la drogue fascine tous les milieux fictifs, mais la réalité est bien plus saisissante. C'est ce que nous racontent les réalisatrices, Julie Laura et Christophe Bouquet dans leur enquête en 3 épisodes. De l'opium cultivé en Extrême-Orient à la culture de la feuille de coca en Amérique latine, la série documentaire montre comment les pouvoirs politiques se sont emparés du trafic de drogue au cours de l'histoire. La drogue devient un bien précieux, pèse dans la balance des négociations diplomatiques et remplit les poches des partis politiques au pouvoir. Des figures du grand banditisme émergent de son commerce. L'empire de Kunsa dans le Triangle d'Or, le réseau de la French Connection, Cosa Nostra en Italie, ou encore les cartels sud-américains d'El Chapo ou de Pablo Escobar. Trop longtemps laissé de côté, relégué au plan d'économie souterraine, l'importance de la drogue est ici rappelée. C'est un produit créé par les puissances coloniales et renforcé par les grands laboratoires pharmaceutiques. Histoire du trafic de drogue, une série documentaire à consommer sans modération sur Arte jusqu'au 29 mai prochain.
La découverte culturelle et scientifique que j'ai faite cette semaine m'est apparue comme une énorme Madeleine de Proust. Jamy, de C'est pas sorcier, a ouvert sa chaîne YouTube.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube.
Le 2 avril 2020, Jamy Gourmand a lancé sa chaîne en uploadant sa première vidéo. Depuis le début du confinement, il publiait tous les jours sur Facebook, Instagram et Twitter une capsule de déconfiné. Ces capsules se retrouvent désormais sur YouTube, aux côtés d'autres vidéos de vulgarisateurs avec autant de pédagogie et de fraîcheur qu'au temps de C'est pas sorcier. Ces vidéos sont très courtes, 1 minute 20, pas plus. C'est un format rare sur YouTube où les 5 à 10 minutes sont généralement privilégiés. Et pourtant, en moins de 2 minutes, Jamy nous explique les perles scientifiques avec simplicité et bien sûr avec les indémodables maquettes. Comme avec C'est pas sorcier, tous les sujets y passent, du moment qu'ils sont bien expliqués. La pleine lune, les volcans, la photosynthèse, l'éternuement, les plumes d'oiseaux, les bananes, le 1er avril ou encore le papier toilette. Parce que la culture c'est aussi scientifique, je vous conseille fortement d'aller jeter un œil à la chaîne YouTube de ce géant de la vulgarisation. En plus, il filme dans son jardin, on a presque l'impression de prendre l'air en sa compagnie. Et c'est à Jamy que je laisse le mot de la fin.
A très bientôt et surtout n'oubliez pas, nous sommes confinés, mais on reste en lien.
À part le corona, il se passe quoi ? C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez écouter cette émission sur SoundCloud, sur Radio Prune et sur Radio Campus Tour, où nous vous retrouvons jeudi. Merci à tous pour votre écoute.
Les confinés parlent aux confinés.
Pour une raison indépendante de notre volonté, nous ne sommes pas en mesure d'assurer la totalité de nos programmes.
Radio confinée, mais radio en activité.
Retrouvez à l'antenne podcasts et contenus originaux. Alors soyez patients et restez chez vous, on s'occupe de tout.
On est de retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Je vous rappelle que cette émission vous est proposée du lundi au vendredi de 11h30 à midi et de 16h30 à 17h, et ce pour toute la durée du confinement. Les confinés parlent aux confinés, puisque je vous rappelle également que les chroniqueurs qui participent à cette émission sont confinés chez eux. On va retrouver l'équipe dont se porte pas plus mal, qui avait reçu Michel Filoulou dans l'interview décalée. A tout de suite.
Bonjour, c'est Bernard Canetti. On est tellement sûr que ça va marcher, on est tellement sûr que ça va vous plaire, que c'est l'heure de l'interview sport.
Et c'est présenté par Chaka, qui a un invité particulier aujourd'hui.
Oui, il est particulier, effectivement. Je vais le laisser se présenter tout de suite, d'ailleurs, on va commencer maintenant, vas-y.
Bonjour, moi c'est Michel Filoulou, président du club des féchettistes de la Ville aux Dames.
Eh bien, bonjour Michel.
Bonjour, bonjour. Merci de m'avoir invité ce soir. Ouais. Ça me fait plaisir de présenter un petit peu mon sport.
Ouais, bah c'est sympa parce que dans le coup, on n'en rencontre pas souvent des joueurs de fléchettes. Vous êtes rattaché à une ligue ? Comment ça se passe ?
Alors, c'est un petit peu compliqué. Hein. Nous, on est rattaché à la ligue des LRDL-DOPOC.
La quoi ?
La ligue régionale des lanceurs d'objets piquants et contondants.
D'accord, et ça s'organise comment au sein du club ?
Ben, on a un petit peu de tout, hein. On a des lanceurs de fléchettes, des lanceurs de couteaux, lanceurs à l'arbalète, avec des sous-sections sur cible, sur nature morte, cible mobile, végétale, pomme, poire, prune et des carambars aussi. On a une section du pont de Ligonnès qui marche pas trop mal en ce moment aussi.
D'accord. Et ça a l'air quand même un peu dangereux comme sport, vous avez jamais d'accident ?
Oh, si, ça arrive, hein, mais c'est rare quand même. Bon, moi, ma dernière expérience, au mois d'avril, je m'entraînais tranquillement à la forêt d'Amboise, à l'arbalète. J'ai tiré sur une souche, bon, c'était Lolita, quoi, l'accident bête.
Lolita ?
Ma chienne.
Ah ! Ah mince, ah oui. D'accord. Bon, interrompons tout de même la pratique méconnue des fléchettes. Quelles sont les différentes épreuves ?
Bah, les plus connues, hein, y a le 501, le 301, le cricket ou le round the clock. Plus connu par les joueurs de garage, quoi.
Et vous, c'est quoi votre spécialité ?
Ma spécialité, c'est le 501, comme le jean. D'ailleurs, il est un petit peu serré, celui que je porte ce soir.
Effectivement.
T'as perdu de pression ?
T'as encore une phrase à lire.
Il t'a dit d'enchaîner, là.
Ça demande de la précision et de l'agilité, c'est pas moi qui le dis.
Enchaîne.
Merci beaucoup, Michel Filou. Un dernier mot pour nos auditeurs.
Bah oui, pour tous les fléchettistes en herbe en puissance qui s'entraînent dans leur garage, pour tous les passionnés d'objets piquants et contendants, on vous attend au gymnase Jeanne d'Arc à la Villo.
Ah, Serge, une question.
Jeanne d'Arc.
J'avais une petite question.
J'ai pas compris là. La Jeanne d'Arc. Les fléchettistes.
J'avais
vous êtes con quoi. Gymnase Jeanne d'Arc.
J'avais une petite question. Est-ce que vous faites du lancer de nains?
Ah non, on fait pas ça, c'est pas piquant le nain.
Bah ça peut être contendant quand même.
Urticant, c'est possible.
Orti.
Tu as regardé sur Wikipédia la définition de contendant?
Eh ben en tout cas, merci Michel, Filou Filou.
Tu peux rester jusqu'à la fin de l'émission?
Oui, tu peux rester, Michel.
Merci beaucoup, Ben et Chaka. Et on continue dans la déconne maintenant avec le quiz.
On est de retour et on va passer le relais à Charles et à Solène qui vont vous faire découvrir deux films et on se retrouve juste après.
Voici 3 semaines déjà que je vous parle des films de John Carpenter, et j'ai loin d'avoir fini. C'est en effet un réalisateur que j'ai découvert pendant mon adolescence, et que je n'ai jamais cessé d'admirer. On continue donc avec Invasion Los Angeles. Notre héros aujourd'hui est John Nada, un ouvrier qui parcourt les routes à la recherche d'un emploi. Il se fait embaucher sur un chantier, et fait la connaissance de Frank, qui lui propose de loger dans un bidonville à proximité. John va découvrir dans une petite église un laboratoire clandestin qui fabrique des lunettes de soleil hors du commun. Celles-ci permettent de voir le monde tel qu'il est réellement, c'est-à-dire gouverné par des extraterrestres ayant l'apparence d'humains et maintenant ces derniers dans un état apathique au moyen d'une propagande subliminale omniprésente. Frank entre en contact avec un groupe de rebelles décidés à éradiquer les envahisseurs.
You know. You look like your head fell on the cheese dip back in 1957. No, you're okay. This one, real fucking ugly. Oh. You see, I take these glasses off, she looks like a regular person, doesn't she, huh? Put them back on, formaldehyde face, that's what we got.
That's enough out of you. You get out or I call the cops.
Call the cops? You know what you need? You need a Brazilian plastic surgeon.
I've got one that can see.
Casting, Roddy Piper, Cass David et Meg Foster. Roddy Piper est à l'époque un catcheur canadien, incarnant un Écossais qui rentre sur le ring au son des cornemuses. Il a joué dans une quinzaine de films, mais nous ne retiendrons que Invasion Los Angeles. Sorti en 1988, Invasion Los Angeles est un film à petit budget, seulement 4 millions de dollars. Tout comme Le Prince des Ténèbres, un an plus tôt, qui lui coûte 3 millions de dollars. En effet, en 1986, Carpenter réalise Les Aventures de Jack Burton, un film avec un budget de 25 millions de dollars, et celui-ci est un échec commercial et critique. John Carpenter quitte alors Hollywood et devient un cinéaste indépendant. Il signe lui-même le scénario du film sous le pseudonyme de Frank Armitage, emprunté à un personnage de Lovecraft. Bien sûr, John Carpenter compose également lui-même la musique du film.
have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum.
Oh, shit. Oh.
Invasion Los Angeles est un film très bien réalisé, mis en scène, bien écrit et bien rythmé aussi. Il y a beaucoup d'humour, et le film peut également être vu comme une satire et une critique du système capitaliste et des médias. C'est l'un de mes films préférés de John Carpenter. Invasion Los Angeles est disponible en Blu-ray, dans une belle version restaurée avec plein de bonus intéressants. Il est également disponible en 4K. Un film indispensable dans votre vidéothèque. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de la filmographie de John Carpenter.
Bergala, dans l'hypothèse cinéma, disait « Les plus beaux films à montrer aux enfants ne sont pas ceux où le cinéaste essaye de les protéger du monde, mais souvent ceux où un autre enfant joue le rôle de tampon, d'intermédiaire. Dans cette exposition au monde, au mal qui en fait partie, à l'incompréhensible, ce semblable à qui on peut s'identifier, protège des agressions du monde telles qu'elles sont présentes dans le film, sans les cacher pour autant. Le petit fugitif de Maurice Engel est l'un de ces films-là. » Alors je voulais vous parler de ce film, puisqu'il fait partie de la plateforme Benchy, vous pouvez le regarder sur cette plateforme. C'est un de mes films vraiment, pas de chevet, mais vraiment un film qui a compté pour moi. La production a été assez atypique, le tournage aussi, la distribution de ce film. Et dans l'histoire du cinéma, c'est un film un peu à part en fait. Alors le film est sorti en 1953. Il compte plusieurs noms au générique. Alors déjà deux réalisateurs, Maurice Engel et Rutz Hocking. Ils étaient ensemble à la ville. Maurice Engel, c'était un photographe. Il a fait la Seconde Guerre mondiale chez les Marines. C'est quand il est revenu en fait de la guerre, même s'il a continué les expositions, il a voulu s'essayer au cinéma et il a voulu réaliser un film avec sa petite amie Rutz Hocking, qui était elle aussi photographe, et un ancien collaborateur à eux, Ray Ashley. Donc ils sont un peu trois à vraiment faire ce film. Puis il y avait pas mal de personnes bénévoles qui ont participé au projet. Le film se fait pour un montant de 30 000 $, ce qui était vraiment pas grand-chose dans l'économie du cinéma et ce qu'il en encore moins aujourd'hui. Voilà, le film est en noir et blanc, c'est très granuleux et c'est vraiment chouette à voir, caméra à l'épaule. On a l'impression des fois dans un documentaire. C'est d'ailleurs le tournage se fait en semi-professionnel, hein. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de bénévoles sur le film. Voilà, sur la production du film, c'est assez intéressant, la fabrication en tout cas. Voilà, ils ont eu une toute petite caméra pour tourner. À l'époque, c'était encore des infrastructures très lourdes pour tourner. Et là, limite, on a l'impression d'être une petite souris dans New York et ça fonctionne, quoi. L'histoire va être vraiment très très simple, très universelle pour le coup. On a deux frères qui sont dans un quartier de New York et qui doivent l'histoire d'un week-end se débrouiller tout seuls. Leur mère n'est pas là et ils ont juste pour consigne de ne pas sortir de l'appartement, le confinement avant l'heure. Et évidemment, c'est des enfants, ils vont désobéir. Le grand frère, il ne veut pas avoir son petit frère dans ses pattes et puis après une très mauvaise blague de ce frère, le petit Joey, le petit frère, il va fuguer pendant 2 jours à Coney Island au cœur d'une fête foraine il rêvait d'aller à cette fête foraine et évidemment, il va y aller. Voilà, New York en décor à ciel ouvert, c'est juste magnifique. Enfin, vraiment, si vous voulez être plongé dans New York dans les années 50, regardez ce film, c'est vraiment magnifique. Et puis le film tient aussi au casting, hein, quand même. Hein, on a ce petit Joey qu'on va voir quasiment pendant tout le film qui s'appelle Ricky Underco. Voilà, évidemment, premier film, il est très attachant. Alors même s'il fait plein de bêtises et qu'il peut être un peu craintif à plein de moments, très lunaire, il est Il est vraiment très libre et on s'attache vraiment à lui. Il passe par tous les sentiments d'un enfant et du coup l'identification aussi bien à la fois pour un enfant, si vous avez des enfants, voilà, de petit Joey, il a, je dirais, 6 ans, quelque chose comme ça. Voilà, on peut très facilement s'identifier, voilà, pour un jeune spectateur, à ce petit Joey. Et l'identification, elle joue aussi grâce à la mise en scène du film, qui est toujours du point de vue de ce petit Joey, toujours à hauteur d'enfant. Voilà, il y a aucune, on le prend jamais de haut. Et je pense que cette identification-là, elle naît aussi de ça. Et puis, c'est intéressant aussi de voir le film et de comprendre aussi comment le film a été fait pour se rendre compte que le film est très atypique. Voilà, toutes les étapes du film ne se sont pas faites sans embûches. Hein. Voilà, on a pu voir l'écriture, le tournage, le casting, mais Maurice Engel, il n'avait jamais touché, il n'avait jamais eu connaissance de plein de choses dans le cinéma. Et au moment du montage de son film, par exemple, une fois le tournage fini, il fait appel à un monteur professionnel, mais cette collaboration, elle est de courte durée. Le monteur, il est lassé du manque de professionnalisme de la part de Maurice Engel. Du coup, il quitte le projet. Mais voilà, le film, il a coûté $30,000. Donc, il a fallu renier surtout la musique, le montage, les techniciens de montage. Et au moment de sortie du film, il va être très compliqué hein, quand même, aucun des grands groupes ne veut le distribuer, que ce soit MGM, la Warner, Fox, Universal, Columbia, tous y répondent non, même les distributeurs de films indépendants lui ferment ses portes, donc voilà, il ne s'est pas découragé, hein, il a foncé, mais voilà, il a fallu couper dans le montage pour que le film soit distribué. Alors du coup, il a été distribué par le Joseph Bernstein, qui a été distributeur des films Rome, ville ouverte et Le voleur de bicyclette aux États-Unis, qui va vraiment accompagner le film et qui va être à l'initiative aussi de la découverte de cet auteur et de ce film. Vraiment, avec lui, l'histoire a été en marche. Hein, le film, il a reçu après, le film est sorti, il reçoit le Lion d'argent à l'année de sa sortie. Voilà, enfin vraiment, et le film aussi, surtout, sort sur 5000 écrans aux États-Unis. Et surtout, en France, les jeunes critiques des Cahiers du cinéma découvrent ce film. On est en 53, François Truffaut, Jean-Luc Godard voient ce film. Et c'est un film aussi, et c'est pour ça que je voulais en parler, à la fois parce qu'il est sur cette plateforme, et c'est un film qui va influencer considérablement la nouvelle vague, en fait. Que ce soit Les 400 coups ou À bout de souffle, on peut vraiment aussi, alors évidemment c'est pas le seul, mais sans ce film-là, peut-être qu'il n'y aurait pas eu une nouvelle vague en France. On a la politique des auteurs dans ces films-là, le décor à ciel ouvert, des acteurs non professionnels qu'on va diriger, enfin on a plein de choses quoi. Donc voilà, je voulais vous parler de ce film-là, à la fois parce que c'est un film à part dans le cinéma américain, et parce qu'il a considérablement influencé la nouvelle vague en France. Donc je répète, le film s'appelle « Petit fugitif » de Maurice Engel et Ruth Horking, écrit par Ray Ashley, et il est visible sur la plateforme Benchy pour même pas 5€ en VOD, et sinon il existe aussi en DVD si vous n'avez pas internet, et voilà. Si vous connaissez pas ce film, enfin voilà, belle découverte à vous.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour En attendant que le monde change, même heure et même place avec Jean-Pierre. Nous, on va se quitter en retrouvant Madame CSA qui va vous rappeler les règles à respecter durant le confinement. Et on se retrouve jeudi. D'ici là, prenez soin de vous, continuez à respecter le confinement et écoutez Radio Campus Tour 99.5 FM. C'était Philippe au micro. Salut à toutes et à tous.
Information coronavirus. Comment lutter contre le coronavirus? Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer 3 personnes en moyenne, qui à leur tour en contaminent 3 autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, en restant confiné chez soi, et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.